Deuxième jour de discussion autour du ministre des Outre-mer. Les délégations politiques ont débuté la journée autour d'une même table. Deux dépressions tropicales rôdent autour de la Calédonie, mais elles ne devraient pas toucher directement le territoire. En métropole, le Premier ministre hausse le ton contre l'Algérie qui refuse d'accueillir ses ressortissants expulsés de France. François Bayrou annonce un réexamen complet des accords franco-algériens de 1968. Donald Trump annonce lui une hausse de 25% des droits de douane sur les produits européens. L'Union européenne est une organisation conçue pour emmerder les États-Unis, a dit textuellement le président américain. Football, le PSG et Dunkerque se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France de football. Ils rejoignent Cannes et Reims. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le pouvoir d'achat et la structure des prix, un sujet qui revient souvent dans l'actualité et qui a fait l'objet d'un séminaire en début de semaine organisé par Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie. Et ce sera aussi le thème des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Nous en parlerons avec la directrice de l'ISEE, Élise Desmazures, le président de l'autorité de la concurrence, Stéphane Rotterer, le directeur des affaires économiques du gouvernement, John Tchoupit, et le président de l'UTC-FECGC, Christophe Coulson. Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à retrouver donc dès la fin de ce journal. Les discussions sur l'avenir institutionnel ont repris au Haut-Commissariat avec la participation de l'ensemble des délégations calédoniennes. Comme hier, les loyalistes et le Rassemblement, Calédonie Ensemble, l'Éveil Océanien, l'UNI et l'UCFLNK se sont retrouvés autour du ministre des Outre-mer Manuel Valls et du conseiller du Premier ministre Éric Thiers, Elisabeth Noir.
Les travaux ont débuté aux alentours de 9h ce matin et ils continuent à échanger sur les trois thèmes de discussion proposé par le ministre des Outre-mer, le lien avec la France, la gouvernance et le nouveau contrat social. Rien ne filtre de ces discussions, mais pour l'heure, l'ambiance semble plutôt constructive. Le sentiment de Jean-Pierre Diaoué, membre de la délégation UNI.
Le fait qu'on est tous là, la deuxième journée de négociation, toujours autour de la table, tout le monde ensemble, c'est déjà un point positif. C'est-à-dire qu'il y a la volonté des uns et des autres que l'on arrive à un résultat, dans un délai raisonnable. Donc c'est déjà bien. Quand les trois partenaires ne sont pas alignés, ça mène à une impasse. L'exemple le plus récent, c'est le dégel du corps électoral. Ça n'a pas été... Les trois partenaires n'ont pas donné un avis favorable là-dessus. Donc ce qui est important, c'est que c'est toujours les trois partenaires, il faut que l'on arrive. Et c'est ça qui est recherché aujourd'hui, c'est que les trois partenaires arrivent à se mettre d'accord sur quelque chose.
Il faut trouver un chemin, il faut arriver à un résultat dans un délai raisonnable. C'est aussi le souhait exprimé par Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble.
L'ambiance est constructive. C'est important. On est toujours tous ensemble autour de la table pour discuter. On va rentrer maintenant dans des sujets peut-être un peu plus précisément. Mais on prend le temps. On prend le temps. Ça avance.
Et du côté des loyalistes, Nicolas Metzdorf s'est contenté de lâcher avant d'entrer au Haut-Commissariat qu'il était toujours dans le même état d'esprit, constructif et déterminé. Très peu de déclarations donc au deuxième jour de ces négociations en vue d'un accord de sortie de l'accord de Nouméa. Négociations qui, rappelons-le, ont été ouvertes hier matin par le ministre des Outre-mer qui a réussi le pari de réunir tout le monde autour de la table. L'après-midi d'hier a été consacré à des discussions bilatérales avec chacune des délégations avant une brève séance plénière pour faire une synthèse des travaux. Les discussions qui ont débuté ce matin doivent se poursuivre toute la journée et elles ont vocation à se prolonger demain après-midi et peut-être samedi, puisque Manuel Valls a décidé de prolonger de 24 heures son séjour en Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Selon vous, est-ce un bon signe que le ministre des Outre-mer ait décidé de prolonger son séjour en Nouvelle-Calédonie de 24 heures? Si vous pensez que c'est plutôt encourageant, vous tapez 1. Si vous pensez que c'est plutôt mauvais signe, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'Europe a raison de continuer à soutenir le président ukrainien Zelensky. Ils sont 14% à penser que l'Europe a tort de continuer à le soutenir. Une dépression tropicale modérée et un cyclone dans la zone de la Calédonie. Deux phénomènes relativement loin du territoire qui ne représentent pas de danger. Le premier a été dénommé Sérou et se situe à l'est du Vanuatu. Lionel Divoul est prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
Sérou était positionné ce matin à 5h à environ 220 km dans le sud-est du Vanuatu, avec une pression au centre estimée à 992 hectopascales. Sérou évolue actuellement dans un environnement qui lui est défavorable et a été rétrogradé au rang de dépression tropicale modérée. Elle poursuit toujours une trajectoire sud à sud-est qui continue à l'éloigner de nos côtes, donc ne représente pas de danger.
Le deuxième phénomène est à l'ouest de la Grande Terre, phénomène qui s'intensifie mais qui lui non plus ne représente pas de danger pour la Nouvelle-Calédonie.
À la distance l'interférence de ces roues, Alfred évolue dans un environnement qui lui est favorable et est devenu cyclone tropical depuis cette nuit. Une pression au centre estimée à 971 hectopascales qui génère des vents moyens à peu près 70 nœuds, soit à peu près 130 km/h près du centre. Ce matin, à 5h, Alfred était situé à peu près à 900 km dans le nord-ouest de Belette et poursuit toujours une trajectoire sud à sud-est assez lentement. Mais qui continue à l'éloigner de nos côtes également, donc ne représente pas, comme ces roues, de danger pour nous durant les 48 prochaines heures.
Le temps risque donc d'être maussade ce week-end, notamment sur la moitié nord de la Nouvelle-Calédonie. Il est 11h36, une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tanéo fait sa rentrée avec vous. Les bus circuleront à partir du lundi 10 février avec des nouveautés. Des lignes adaptées à vos besoins en déplacement, une offre concentrée sur les heures de pointe, le retour des plafonds tarifaires pour un porte-monnaie transport maîtrisé. Retrouvez sur le site taneo.nc le plan des lignes, les horaires et les nouveaux tarifs. À très vite sur nos lignes.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Les cours seront perturbés ce lundi au collège de Thiot. Dans un communiqué adressé au vice-recteur, le personnel du collège de la Colline indique faire grève pour protester contre l'annonce de la fermeture de l'établissement public pour 2026, annonce faite par la province sud en août dernier. Les personnels mobilisés pour cette grève estiment que dans le contexte économique que connaît la commune, seul le secteur de l'éducation pouvait apporter un sentiment de sécurité, voire de confiance pour l'avenir. Fin de citation. Elles souhaitent donc faire ajourner cette décision de fermeture et se retrouveront dès lundi prochain à 7h devant les grilles du collège. La ville du Mont-d'Or n'octroie pas de prime au blocage. C'est la mise au point du maire de la commune, Eddy Le Courrieux, à la suite de publications sur Internet concernant l'octroi supposé récent d'une subvention spéciale pour la tribu de Saint-Louis. Et le maire déplore que certains aient alimenté cette rumeur pour en faire une nouvelle polémique après les travaux municipaux réalisés à chaque entrée scolaire sur une petite portion de la route de Saint-Louis. En conséquence, Eddy Le Courrieux tient à apporter des précisions et surtout à rappeler les faits, Elisabeth.
Il affirme que ni l'État ni la ville du Mont-d'Or n'ont récemment acté l'octroi d'une subvention spéciale à la tribu de Saint-Louis. Le maire précise que le programme dont il est question fait partie du contrat d'agglomération signé entre l'État et la ville du Mont-d'Or pour la période 2017-2023 et qu'à la demande de l'État, un avenant d'un an supplémentaire a été signé fin 2023, donc avant les émeutes de mai 2024. Cet avenant d'un montant de 5 millions, dont 2 millions pris en charge par la ville, a permis notamment, précise le maire, de financer des associations comme Active, qui aident les jeunes en difficulté en leur offrant une première expérience professionnelle, ainsi que des opérations culturelles. Et il ajoute que toutes ces opérations avaient déjà été financées et ont été réalisées avant les émeutes de mai 2024. Eddy Le Courrieux tient également à rappeler que son contrat d'agglomération signé entre l'État et la ville ne concernait pas uniquement la tribu de Saint-Louis, mais bien tous les quartiers du Mont-d'Or. Il précise donc que grâce aux subventions perçues, la commune a pu financer des travaux et proposer une offre culturelle et sportive pour tous les Mont-Doriens, dans le but d'améliorer leur cadre de vie, et que sans l'aide financière de l'État, de nombreux investissements n'auraient pas pu voir le jour. « Je comprends que certains Mont-Doriens puissent ne pas être d'accord avec ces choix », écrit le maire du Mont-d'Or. « Beaucoup sont encore marqués par ce qu'ils ont vécu l'an dernier. Cependant, je ne peux laisser croire que la ville a engagé des dépenses supplémentaires alors même qu'elle n'en avait pas les moyens financiers et qu'une partie de nos concitoyens vivait une situation persistante de blocage et de violence. » Fin de citation de ce communiqué du maire du Mont-d'Or, Eddy Le Courrieux.
Et puis notez que l'association citoyen mont-dorien organise son assemblée générale ce soir. Les sympathisants et les adhérents sont invités à 18h15 à la salle des communautés du Vallon d'Or. L'occasion de dresser le bilan de l'année 2024 marqué par l'isolement de la partie sud de la commune et d'évoquer les projets pour 2025. Le GC fait sa rentrée depuis plusieurs semaines, une reprise des cours progressive afin de mieux accompagner la centaine d'étudiants. L'école de gestion et de commerce forme les cadres et les entrepreneurs de demain, formation qui est donc adaptée au contexte local. David Leclerc, qui était ce matin notre invité, est le directeur des écoles de la CCI.
On travaille en proximité et avec les entreprises et avec les institutions sur ce qui fait l'actualité chaque jour, chaque année. Je pense que ça ancre véritablement le GC sur le territoire et c'est ce qui en fait sa force. On travaille surveille également ce qui se passe ou ce qui a pu se passer dans d'autres territoires après des événements pas forcément violents, mais des événements qui ont déstabilisé l'économie. Donc, on les amène à travailler là-dessus pour faire des benchmarks et voir ce qui est possible de faire. On a la chance, effectivement, de travailler avec des élus qui sont eux-mêmes des chefs d'entreprise. On travaille au quotidien avec les entreprises qui accueillent des stagiaires, des alternants. Donc, c'est autant de doigts dans la prise pour comprendre ce qui se passe, comment ça évolue et ce qu'on peut proposer, nous, en termes de programme, en termes d'intervention, pour que les étudiants qui sont chez nous puissent comprendre ce qui se passe et comment eux peuvent s'y adapter quand ils vont sortir de l'école.
Les étudiants sont en contact direct des entreprises au travers de stages, de l'alternance, mais aussi de missions de consulting.
C'est un programme de troisième année qu'on a monté pendant le Covid pour accompagner les entreprises qui, sortant du Covid, avaient des difficultés à voir un petit peu leur activité à l'avenir, à repenser leur modèle. Et on a maintenu ce programme qui s'appelle le Strategic Business Development en français, qui consiste en une mission de consulting des étudiants accompagnés par des professionnels, des coachs, formateurs, pour faire une analyse complète de l'entreprise 360 avec l'entreprise et avec ses employés, pour entrevoir des pistes d'amélioration, de renouvellement d'activité, de changement d'activité. Après, les entreprises s'en saisissent ou pas, mais c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'entreprise, elle peut bénéficier de cet accompagnement. Et puis, pour les étudiants, c'est une vraie synthèse des deux années qu'ils ont passées avec nous pour se projeter dans les différentes dimensions que j'ai citées tout à l'heure.
Et notez que l'EGC organise ce soir une cérémonie de remise de diplôme pour 26 anciens étudiants de l'école. Autre cérémonie militaire, celle-là, c'est à Coumac ce matin. Les 67 volontaires incorporés il y a quelques semaines ont été présentés au drapeau du RSMA, le régiment du service militaire adapté. La cérémonie a été présidée par le lieutenant-colonel Faldoni Révillon, commandant du RSMANC, qui a notamment vu les jeunes volontaires défiler devant leur famille à l'issue de leur formation militaire. Ils vont désormais débuter leur formation professionnelle sur les sites de Coumac, Conné et Bouraille. Cette partie professionnelle durera entre 5 et 9 mois en fonction de la filière choisie par les volontaires. Comment et pourquoi les jeunes consomment-ils de l'alcool ou du cannabis? La chercheure Evelyne Bartou a rendu compte hier de son étude réalisée sur près de 4 ans auprès de la jeunesse calédonienne. Charlotte Coulson.
Pendant un peu plus de 3 ans, entre 2021 et 2024, la sociologue est intervenue sur le territoire pour étudier les comportements des jeunes calédoniens face aux consommations ou les raisons qui peuvent les y pousser. Au total, un peu plus de 1200 jeunes ont répondu à l'enquête par questionnaire et une centaine ont été reçus en entretien. Plus de 200 professionnels travaillant avec la jeunesse ont aussi participé à l'enquête et les données récoltées ont ensuite permis à la chercheure de dresser certains constats qu'elle a présentés hier soir à la mairie de Dimbéa.
Ces consommations, en fait, elles ont des raisons très différentes. Donc, il y a une grosse partie des consommations qui se font dans le groupe de pairs, dans une dimension un peu sociale. Il y a une dimension des consommations qui sont plutôt d'essayer de fuir le quotidien, de se déconnecter un petit peu, de mettre en veille la conscience, comme disent certains jeunes. Un troisième registre qui est plutôt les consommations pour s'affirmer en quelque sorte. C'est des consommations parfois un peu ostentatoires face aux parents pour montrer qu'on grandit. Et le quatrième, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi des consommations qui se font pour alerter un petit peu ou interpeller. Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'une dimension politique, mais des consommations pour des jeunes qui ne trouvent pas d'autres moyens peut-être aussi d'expression, d'autres espaces d'expression.
Et pour retrouver l'étude complète d'Evelyne Bartou, il suffit de se rendre sur le site Archives Ouvertes HAL et chercher son intitulé « Consommation juvénile d'alcool et de cannabis, de l'échappatoire à la portée sociale ».
L'actualité en métropole et dans le monde, ce sera dans un instant, juste après la deuxième pause de ce journal. Il est 11h45.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Retrouvez votre marque You by Kotex au Salon de la Femme du 7 au 9 mars à la Maison des Artisans. Profitez d'une offre spéciale et faites tourner la roue de la chance pour gagner des surprises. Plus d'informations sur clocal.nc.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
François Bayrou hausse le ton contre l'Algérie. Les relations difficiles entre les deux pays se sont tendues depuis qu'Alger refuse d'accueillir sur son sol les Algériens expulsés de France. Sur ce sujet, le bras de fer est maintenant engagé depuis plusieurs semaines. Le Premier ministre hausse donc le ton et il annonce un réexamen complet des accords franco-algériens de 1968. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
C'est inédit face à une situation qu'il juge inacceptable. François Bayrou lance un ultimatum. Les autorités algériennes ont 6 semaines pour réexaminer la manière dont les accords de 1968 sont exécutés, surtout sur la question des renvois de leurs ressortissants. Le chef du gouvernement sonne l'alarme, regrette une situation grave, préoccupante, évoque à de multiples reprises l'attentat de Mulhouse et menace de dénoncer l'ensemble des accords si le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune refusait de coopérer.
Le gouvernement français n'est pas à la source de la situation qui a été créée. Les victimes que nous avons connues à Mulhouse ce week-end sont les victimes directes du refus d'application de ces accords. Le gouvernement français ne peut pas l'ignorer.
Première étape, une liste de ressortissants que la France veut renvoyer d'urgence, qui sera soumise aux autorités algériennes. Mais d'autres leviers sont évoqués, des mesures de restriction d'accès au territoire national pour des hauts dignitaires algériens, ou encore un audit ministériel sur la politique de délivrance des visas. Une petite victoire pour Bruno Retailleau, qui plaide depuis plusieurs mois pour déclencher ce bras de fer avec l'Algérie et propose de conditionner la délivrance de visas à celle des laissez-passer consulaires.
Et le ressortissant algérien auteur de l'attentat terroriste de Mulhouse a lui été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue. Il est placé à l'isolement. Des conditions de détention très strictes également pour Brahim Aouissaoui. Ce Tunisien a tué 3 personnes à l'arme blanche lors de l'attentat qu'il a commis à la basilique de Nice en octobre 2020. Après 2 semaines de procès, la cour d'assises spéciale de Paris l'a condamné à la perpétuité incompressible. Jean-Baptiste Marty.
Et cette peine maximale est assortie d'une période de sûreté incompressible, une perpétuité qualifiée dans le langage judiciaire de perpétuité réelle. Comprenez, Brahim Aouissaoui ne pourra pas bénéficier de remise de peine, un verdict qui sonne comme un véritable soulagement pour les familles des victimes. Certains membres en pleurent à la sortie de la salle d'audience. Écoutez Maître Philippe Soucy, avocat du mari d'une des 3 victimes.
Il aurait été incompréhensible qu'une autre peine fût prononcée, parce que dans ce cas-là, on se serait demandé, mais dans quel cas on prononce la perpétuité réelle? C'est évidemment la peine la plus élevée du code pénal. 5 condamnés aujourd'hui en France ont été condamnés à cette peine. C'est le 6e.
Le dernier en date était Salah Abdeslam, jugé à la perpétuité incompressible après les attentats du Bataclan, ce qui a motivé la cour d'assises, qui d'ailleurs a répondu favorablement aux 35 questions posées dans ce procès terroriste. Eh bien, c'est la dangerosité de Brahim Aouissaoui, sa barbarie aussi. Le président a notamment rappelé les 60 coups de couteau infligés aux 3 victimes. Le terroriste islamiste, dont la radicalité et l'obsession djihadiste est encore fortement présente 4 ans après cette attaque.
Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. À l'étranger, Israël, entre colère et émotion, a enterré la famille Biba, la mère de 32 ans et ses 2 enfants âgés de 4 ans et 9 mois au moment de leur enlèvement par le Hamas en octobre 2023. Des centaines d'Israéliens ont assisté à leurs obsèques marquées par le message du mari et du père des 3 victimes.
Chérie, tout le monde nous connaît et nous aime. Tu ne peux pas imaginer à quel point cette folie est irréelle. On me dit sans cesse qu'on sera toujours à mes côtés, mais ce n'est pas toi. Alors s'il te plaît, reste près de moi. Ne t'éloigne pas.
Dans les heures qui viennent, le Hamas doit remettre à Israël les corps de 4 otages décédés pendant leur captivité. Parmi eux pourrait figurer le dernier otage français aux mains du Hamas depuis le 7 octobre 2023. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la charge de Donald Trump contre l'Union européenne. C'est une organisation conçue pour emmerder les États-Unis, a dit textuellement le président américain, qui entend mettre en œuvre l'une de ses promesses de campagne, augmenter les droits de douane sur les produits importés d'Europe de 25%. Pas de date d'entrée en vigueur de cette mesure pour l'instant, qui pourrait avoir un certain nombre d'effets négatifs. Baptiste Morin.
Ce serait une mauvaise nouvelle pour les secteurs qui exportent beaucoup outre-Atlantique, et ils sont nombreux. Les États-Unis sont le premier acheteur de biens européens. La France, elle, est un peu moins exposée, mais quand même, 3 secteurs principaux seraient concernés. L'aéronautique, l'industrie pharmaceutique et les vins et spiritueux, Airbus, Thales, Sanofi et nos vignerons, pour ne citer qu'eux. Les droits de douane les pousseraient à rogner dans leurs marges pour ne pas afficher des prix trop élevés, mais celui qui souffrirait le plus, au bout du compte, ce serait le consommateur américain, qui paierait ses produits plus chers. Alors tout ça reste une annonce. Donald Trump avait aussi promis 25% de droits de douane sur les produits canadiens et mexicains avant de les suspendre. Au fond, c'est la stratégie du président américain, la menace de taxes pour en fait ouvrir des négociations.
Baptiste Morin pour Europe 1. Il est 11h50, on va parler sport et notamment football dans un instant, avant de retrouver ensuite les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Passionné d'équitation ou simple curieux, rendez-vous le week-end du 1er et 2 mars dans les centres équestres de Nouvelle-Calédonie pour tous à cheval. Au programme, animation, découverte et sensations pour petits et grands. Trouvez le centre équestre le plus proche et le programme des activités sur www.cran.nc ou sur les réseaux sociaux. Venez vivre la magie du cheval.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on commence par le football avec ce matin les derniers quarts de finale de la Coupe de France. Deux matchs étaient au programme de ce début de matinée après Cannes et Reims hier. Lionel Sabot, c'est Dunkerque et Paris qui ont décroché leur billet pour les demi-finales de la compétition. Laissez-moi terminer.
Oui, et l'exploit du jour, disais-je, est à mettre au crédit de Dunkerque, club de Ligue 2 qui est allé s'imposer de fort belle manière sur la pelouse de Brest. Les Dunkerquois étaient menés 2-0 jusqu'à la 66e minute de jeu, mais ils ont réagi et se sont finalement imposé 3-2, victoire notamment grâce à un doublé d'Opassan Gâté qui est plutôt défenseur et qui n'était pas titulaire au coup d'envoi de la rencontre. Écoutez-le.
J'ai même pas de mots, c'est la première fois que j'ai disputé un quart de finale. Là, c'est moi qui permet à l'équipe de revenir à 2-2 et qui donne le 3-2. C'est exceptionnel, c'est un travail collectif. Les remplaçants, on est rentrés, on a apporté un truc en plus. Les titulaires, ils avaient tout donné et ça, c'est la victoire d'un collectif. On voulait écrire l'histoire et aujourd'hui, je pense qu'on l'a écrit.
Et en parlant d'histoire, notez que ça faisait 96 ans que Dunkerque n'avait plus joué une demi-finale de Coupe de France. Dans l'autre match de la matinée, Saint-Brieuc, club de National 2, c'est l'équivalent de la 4e division, rencontrait le Paris Saint-Germain, le leader de la Ligue 1. La rencontre s'est jouée sur la pelouse du Roazhon Park à Rennes. Il n'y a pas eu de miracle. Le petit pousset briochin s'est fait dévorer par l'ogre parisien. Paris s'impose 7-0. Écoutez la réaction de Christophe Kerbat. C'est le capitaine du stade briochin qui a 38 ans, a joué ce matin son tout dernier match de Coupe de France.
On savait qu'il y avait un monde d'écart entre eux et nous. Voilà, ils sont très 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 forts, il n'y a rien à dire. On a essayé de lutter avec nos armes, on a tenu une mi-temps, on était 4-2-0. Mais voilà, après la marche était trop haute en deuxième mi-temps avec l'intensité qu'ils mettent, le jeu en mouvement et tout ça, c'est une très belle équipe. Et puis pour nous, voilà, c'était notre petite finale à nous. Nous, notre parcours était réussi depuis un moment. Donc ça fait cher pour finir un parcours, mais l'aventure est magnifique. Et voilà, d'avoir vécu ça avec ce club et ces gars-là, c'est génial.
Et rappelons qu'hier, lors des deux premiers quarts de finale, l'AS Cannes, club de National 2, s'était brillamment qualifié pour le dernier carré en s'imposant 3-1 sur Guingamp, club de Ligue 2. De son côté, Reims avait décroché sa place en demi-finale sur la pelouse d'Angers. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu demain matin pour nous.
Allez, on va passer au tennis et voyager sur la planète pour voir que les Français sont en difficulté un peu partout.
Oui, alors à Dubaï, sur 3 joueurs qui étaient en lice hein, cette nuit pour nous, 2 ont été éliminés. Hugo Humbert, tête de série numéro 5, tenant du titre, a été stoppé en 8e de finale de ce tournoi ATP 500. Le Français s'est incliné en 3-7 devant le Hollandais Talon Griekspoor. Score final 4-6, 6-3 et 6-2. Élimination également tôt ce matin pour nous de Giovanni Mpechi-Pericard, battu en 2-7, 6-4, 6-4 par la tête de série numéro 1, le Russe Daniil Medvedev. En revanche, Quentin Alice, qui est issu des qualifications, eh bien, il poursuit le tournoi. Il s'est qualifié pour les quarts de finale en s'imposant en 2-7, 7-6, 6-4 sur l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Du côté d'Acapulco, c'est au Mexique, élimination d'Alexandre Muller qui s'est incliné en 2-7 sur l'Américain Franz Tifoe, tête de série numéro 7 de ce tournoi. Score final 6-4, 6-2 en faveur de l'Américain.
Et puis on termine avec quelques mots de sport en Calédonie et la suite de l'Open International de squash qui est aussi l'occasion de fêter les 40 ans de la salle Picou.
Oui, et ce soir, place au quart de finale et tous les favoris seront au rendez-vous à la salle Picou. Les 4 meilleurs Calédoniens rencontreront les 4 invités internationaux, pensionnaires tous du circuit pro. Gaël Gosse aura fort à faire pour une place en demi-finale contre Sava Sangari Subramanian, numéro 1 malaisienne, 7e joueuse mondiale. Nicolas Massenet rencontrera lui la tête de série numéro 6 du tournoi. Et Nora Villard, membre de l'équipe de France, 59e joueuse mondiale. Laurent Guépy et Nicolas Faure feront respectivement face à deux autres membres de l'équipe de France, Baptiste Amazzotti, favori du tournoi, 23e au classement mondial, et Auguste Dussourd, 33e joueur mondial. Les quarts de finale sont programmés à partir de 18h30.